Le débat du jour. Marion Cazanov.
Ce soir, aux États-Unis, place au débat Joe Biden-Donald Trump. Les deux candidats à la présidentielle vont s'affronter tout à l'heure pour convaincre les électeurs. Premier débat avant la présidentielle de novembre. Débat qui s'annonce tendu, tant les prises de parole de Donald Trump sont clivantes, parfois très brutales, un style qui pourrait avoir inspiré en France, car le débat pour ces législatives est émaillé de déclarations parfois violentes, choquantes, renforcées par le caractère éclair de cette campagne. Y a-t-il une trumpisation du débat politique en France? Comment interpréter ces méthodes de communication? Sont-elles nouvelles? On en débat ce soir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et trois invités pour en débattre. Bonsoir Marc Crépon.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, professeur de philosophie à l'École normale supérieure. Vous avez beaucoup écrit sur le thème de la violence. Je cite votre dernier livre, « Sept leçons sur la violence » qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil et professeur à Sciences Po. Et enfin, Arnaud Benedetti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez écrit « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire ». C'est aux éditions Michel Lafon. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais commencer d'abord par ces propos d'Emmanuel Macron tenus il y a quelques jours dans un podcast.
Moi, je pense que c'est hors sujet, la réponse de l'extrême droite, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. À l'inverse, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont de confession musulmane, qui se disent « je ne suis pas bien défendu » et qui vont vers une offre qui est une forme de communautarisme. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Parce que c'est d'abord renvoyer des gens exclusivement à leur appartenance, ou religieuse ou communautaire, c'est de justifier leur écartement en quelque sorte de la communauté nationale, et c'est la guerre civile avec ceux qui ne partagent pas ces valeurs.
Voilà, Emmanuel Macron parle d'un risque de guerre civile. Guerre civile, c'est radical, ça peut faire peur. Marc Crépon, pourquoi l'avoir utilisé? Quelle est la stratégie du président derrière ce terme?
Eh bien, il y a une chose qui me semble très caractéristique de ces élections législatives-là en particulier, c'est que elles sont le terrain d'une double culture, une culture de la peur et une culture de l'ennemi. Chacun des adversaires dans cette campagne a pour, dans le fond, principal ressort rhétorique de faire de son adversaire un épouvantail et une menace pour les uns ou pour les autres, pour la République, pour la démocratie, pour ce qu'on veut. Et donc, cette culture de la peur et cette culture de l'ennemi, elle se prête à tous les excès langagiers, à toutes les outrances verbales. Et pour moi, parler d'emblée de guerre civile, promettre d'ores et déjà une guerre civile si le Front populaire arrivait au pouvoir ou le Rassemblement national arrivait au pouvoir, c'est très précisément mobiliser ce ressort de la peur. Après, il y a quand même aussi un autre trait que je voudrais signaler. C'est vrai que pour la première fois, mais le président n'y est pas pour rien, on a le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Et il est légitime, pour un certain nombre de raisons, de considérer que quand cette formation politique-là arrive aux portes du pouvoir, ça n'est pas tout à fait la même chose que quand n'importe quelle autre formation politique arrive aux portes de pouvoir. Et donc, avoir peur, s'inquiéter de ce que pourrait produire l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, ça, pour le coup, ça me semble quand même parfaitement légitime. Pour la raison suivante, c'est que c'est une formation politique qui, comme toutes les formations nationalistes, rêve de revanche et de vengeance. Vengeance sur la modernité, revanche sur le passé. Et ça, évidemment, ça crée cette revanche, cet esprit de vengeance aussi, un climat de tension dans la société dont on peut réellement redouter les effets qu'il pourrait produire.
Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que vous rejoignez Marc Crépon là-dessus? Est-ce que c'est l'arrivée, les forts scores du RN qui poussent le président à utiliser ce genre de termes, de rhétorique?
Non, il a toujours utilisé ce genre de rhétorique pendant le Covid. Il parlait de guerre, il s'est souvent posé en chef de guerre. Alors le problème, c'est que, comme ça vient d'être dit, en fait, ça utilise systématiquement le ressort de la peur pour essayer de créer un effet de mobilisation, et évidemment de mobilisation derrière la figure d'autorité, c'est-à-dire lui. Le problème, c'est qu'il a tellement utilisé ça, il a tellement créé des divisions entre les gens en menaçant les uns et les autres. Par exemple, il menaçait d'emmerder les anti-vax à l'époque du Covid, donc il a beaucoup joué sur la création de divisions, sur la menace de la guerre, sur la menace des affrontements. Aujourd'hui, c'est inaudible. Et puis, le problème principal qu'il a, c'est qu'il n'a pas un seul adversaire. Il en a deux qui le dominent très largement dans les sondages. Donc, son discours, par ailleurs, ne peut pas vraiment être entendu. Et ça pose un souci pour le deuxième tour, parce que toute cette rhétorique interdit les reports de deuxième tour envers des candidats modérés pour faire barrage au RN. Donc, on a vraiment le cocktail du pire dans ces déclarations.
Arnaud Benedetti, je me tourne vers vous. Donc Emmanuel Macron, lui, c'est, on l'a entendu, il se dit entre les deux extrêmes. Il veut que son camp représente la modération. Mais avec ses propos, il fait un peu, je ne sais pas si on peut faire la comparaison, mais comme Donald Trump, dont la stratégie est de parler plus fort que les autres, de dire des choses plus percutantes, peu importe si c'est vrai d'ailleurs. En quoi ça peut lui être positif à lui, à son camp ?
Vous savez, l'histoire politique du macronisme depuis 2017, elle repose sur deux ressorts. Le premier ressort, c'est de considérer qu'elle est une force centrale qui doit dépasser les clivages et rejeter vers les extrêmes les concurrences de droite et les concurrences de gauche. C'est ainsi que s'est construit le macronisme dès la campagne présidentielle de 2017. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Ce qui change, comme le dit Philippe Moreau-Chevrollet, c'est que la pression électorale aujourd'hui est plus forte que jamais, à la fois sur sa gauche et sur sa droite. D'où cette volonté de dramatiser cette élection législative, de la même manière qu'il avait d'ailleurs, d'une certaine façon aussi, il faut s'en souvenir, il y a 15 jours ou 3 semaines, dramatisé l'élection européenne. Donc, de ce point de vue, je crois que la stratégie du président de la République reste identique à celle qu'elle a toujours été. C'est les circonstances qui changent d'une certaine manière. L'autre aspect, c'est qu'il y a aussi une deuxième constante dans la stratégie du président de la République, et ça depuis 2017, c'est que c'est quelqu'un qui désigne l'ennemi. De ce point de vue-là, il est très schmittien d'une certaine manière. Souvenons-nous que déjà en 2017, il désignait l'ennemi populiste, il le désignait en combattant Marine Le Pen, il l'a désigné à nouveau en 2022 lors de l'élection présidentielle, avec le succès que l'on sait, certainement d'ailleurs aidé électoralement par la guerre en Ukraine. Mais là, il se retrouve dans une situation où il désigne de fait, cette fois-ci, deux ennemis. Un ennemi sur sa gauche, un ennemi sur sa droite. Mais c'est vrai que c'est tout le paradoxe d'ailleurs du macronisme, qui se veut une force modérée, mais qui dans sa communication est parfois extrêmement clivant. En effet, souvenons-nous les déclarations du président de la République au moment de la crise Covid, disant qu'il voulait emmerder les Français. Il y avait là quelque part une forme de communication qui était d'une certaine façon très trumpiste aussi dans son expression.
Alors Marc répond, la stratégie du président, vous voulez revenir sur,
oui,
sur la stratégie
parce
du président
que, là où je rejoins vos deux autres invités, c'est que ce qui est une constante depuis quelques années, c'est le ton très martial que le président prend systématiquement. Et ce ton martial, il est évidemment inquiétant parce qu'il tend à réduire la politique à une situation nécessairement et de façon permanente conflictuelle. Et là où on pourrait s'attendre et espérer un discours qui plutôt apaise les passions, un discours qui prenne de la distance justement avec la colère, la peur, même la haine qui traverse certaines franges de la société, eh bien c'est tout l'inverse qu'il produit. On a l'impression, dans le fond, que il attise le feu, qu'il attise les braises pour mieux se positionner lui-même en sauveur de la nation, celui qui va arriver et qui va nous protéger du pire. C'est-à-dire que, dans le fond, je me suis beaucoup demandé si cette dissolution inattendue que personne n'avait vue venir, elle ne relevait pas un tout petit peu de ce cap au pire pour qu'une fois, ou si le pire devait advenir, je puisse apparaître enfin comme un recours jupitérien.
Alors pour Donald Trump, on avait beaucoup parlé de post-vérité, c'est-à-dire un moment où on accorde plus de place à l'émotion, à l'opinion, plutôt qu'au fait. Est-ce qu'on y est, selon vous, Marc Crépon, en France ? On joue plus sur ça, sur ces ressorts émotionnels ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que, d'une façon générale, en temps de campagne électorale, c'est rarement la vérité qui prime et qui prédomine. Ce n'est pas un temps de recherche de la vérité, ni d'expression de la vérité. C'est une parole politique qui est tout entière inféodée aux effets qu'elle produit. Et donc, de la même façon, effectivement, que le populisme, celui de Trump ou d'autres que lui, joue systématiquement sur le mimétisme des passions qu'il perçoit comme traversant la société. Là, on a une attitude politique qui non seulement peut être dans ce mimétisme des passions, ce qu'elle ressort du populisme, mais qui aussi les provoque ou les attise. Et c'est une chose qui, moi, m'interpelle énormément. C'est dans le fond la contagion de ce type de discours politique, la contagion de ce type de parole politique. Et tout à l'heure, vous autres invités rappelé un certain nombre d'écarts de langage d'Emmanuel Macron. Et c'est un président qui, dans le fond, depuis dès son premier quinquennat, a toujours joué à la marge ou au bord du populisme, avec des expressions susceptibles de rappeler, de mimer ce type d'expression politique.
Alors Marc Crépon, vous nous dites que c'est rarement la vérité qui prédomine en temps de campagne. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que c'est ça en temps de campagne? On se concentre trop sur la forme, on n'écoute pas assez le fond, les électeurs sont moins intéressés par ça?
Non, les électeurs ne sont pas moins intéressés par ça. C'est juste qu'on considère que la campagne électorale, c'est un moment de séduction massive dans lequel il faut absolument tout donner pour arracher un vote en quelque part dans les derniers jours même. La croyance aujourd'hui, c'est ça, c'est que la campagne, elle se fait dans les derniers jours. Donc on va absolument tout donner. On voit bien là en particulier que tout ce qui a été consacré comme effort par les formations politiques, ça a été sur la forme et que le fond n'a pas eu le temps d'advenir, ce qui est quelque part assez vertigineux. Si on considère quand même qu'un parti politique devrait être aussi un lieu de production de savoir, mais la réalité... C'est que cette fonction-là, qui a d'ailleurs été longtemps jouée par les partis politiques, a été abandonnée. On en a fait des machines électorales, d'ailleurs avec des noms qui changent à peu près à chaque scrutin du côté macroniste et aussi du côté du Nouveau Front Populaire. C'est une marque qu'il y a deux semaines. Donc il n'y a pas eu de lieu d'élaboration commun. Il y a des think tanks, on a externalisé au fond la production intellectuelle et forcément, ça finit par produire des effets délétères. Après, moi, je rejoins votre invité quand il dit que le président n'a pas joué son rôle d'apaisement. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce type de polarisation extrême qu'on vit, avant, on avait un point de référence central qui était le président. Chirac intervenait pour dire que ça suffisait, qu'on n'allait pas aller jusque-là, qu'il y avait des limites à respecter. Là, on a un président qui, au contraire, effectivement, se sert des divisions pour exister et régner, ce qui est extraordinairement délétère et peut nous amener au bord du précipice où on est aujourd'hui.
Alors, dans cette campagne aussi, on entend beaucoup de termes qui disqualifiant, qui ferment presque le débat. On a entendu les termes d'extrême gauche pour parler de la nouvelle, du nouveau Front Populaire. On accuse LFI d'antisémitisme. Donc, on jette des termes comme ça très forts, radicaux, sans Arnaud Benedetti, sans se soucier forcément si on les utilise à juste titre.
Oui, alors, si vous voulez, ce qui est quand même... C'est une constante quand même dans la vie politique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se polarise sur le moment particulièrement tendu que nous traversons, qui n'est rien d'autre qu'une expression d'une crise qui vient de très loin, d'une crise du politique, d'une crise de la réponse politique, d'une crise des politiques publiques aussi, parce que c'est aussi cela, ce que nous dit ce moment. Mais quand on regarde l'histoire politique, soit de la Troisième République, voire de la Quatrième, et même d'une partie de la Cinquième République, on a connu des périodes de très grande tension et également de violence dans l'expression. Moi, j'appelle tous ceux qui s'intéressent à la vie politique et à la vie parlementaire de consulter les journaux officiels des débats de la Troisième République, soit au moment de l'affaire Dreyfus, au moment de la crise boulangiste, soit durant l'entre-deux-guerres, et on verra là aussi qu'il y avait une expression publique sur le plan parlementaire qui était parfois extrêmement violente, y compris dans la presse et également sous la 4e République. On s'est même battu, il faut le rappeler, dans les travées de l'hémicycle. Mais si vous voulez, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et je crois que c'est véritablement d'ailleurs le caractère un peu dramatique de cette campagne législative qui en plus s'est installée dans une brièveté qui la rend encore plus difficile et encore plus frénétique, c'est que nous avons des forces politiques de gouvernement qui finalement depuis 40 ans se sont succédées et ont mené aux yeux en tout cas une grande partie des opinions publiques, des politiques qui finalement, je veux dire, se ressemblaient. C'est ce qui explique aussi aujourd'hui, si vous voulez, l'émergence d'offres politiques beaucoup plus radicales, tant à gauche qu'à droite. C'est aussi, j'allais dire, sur l'échec du politique, et ça je crois que c'est extrêmement important, c'est pas seulement la communication qui est responsable de cette situation de frénésie, c'est aussi d'une certaine façon la perception d'un échec des politiques qui aujourd'hui expliquent le climat particulièrement tendu dans lequel nous nous trouvons. Alors la communication est trop souvent d'ailleurs une réponse, j'allais dire, à l'incapacité que les politiques ont à répondre aux besoins et aux attentes des citoyens. Et donc moins on va agir, plus on va surcommuniquer. Et d'une certaine façon, c'est aussi, j'allais dire, l'une des difficultés d'Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron a beaucoup investi dans la communication, considérant qu'il tenait le pays par la communication. Mais malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, cette stratégie a ses limites et la dissolution, d'une certaine manière, acte aussi ses limites.
Alors, je reviens sur ce que vous avez dit, Arnaud Benedetti. Le débat a toujours été violent. Marc Répond, vous voulez revenir là-dessus?
Oui, il y a toujours eu, quand on regarde l'histoire de la vie parlementaire, même depuis le 19e siècle, il y a toujours eu des débats houleux au Parlement. Mais moi, j'ai une chose que je voudrais quand même souligner quant à ces élections-là, précisément. C'est qu'elles ont quand même cette spécificité que, pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, arrive aux portes du pouvoir un parti qui a une idéologie monolithique, une idéologie xénophobe qui ne vient pas de nulle part, qui a une histoire et qui a un projet politique qui est aussi un projet de société, qui est un projet de mise au pas de la culture, de mise au pas de la société en général. Et ça, c'est évidemment de nature à attiser les différentes passions. Donc, c'est pas comme si on avait une concurrence, entre trois formations politiques, trois blocs, comme on dit. Il se trouve que dans ces trois blocs, il y en a un qu'on ne peut pas tout à fait penser de la même façon que les deux autres. Pourquoi ? Parce que les deux autres formation politique intègre bon an mal an une certaine forme de pluralisme politique en leur sein. C'est pas du tout le cas du Rassemblement national. Et ça, je pense que ça donne à cette élection, à ces élections législatives là, une dimension supplémentaire qui est celle d'une menace qui pèse sur la société.
Alors, je voudrais à présent qu'on écoute un extrait du débat entre Trump et Biden. C'était en 2020.
Don't ever use the word smart with me.
N'utilisez jamais le mot intelligent avec moi. Ne l'utilisez jamais. Parce que vous savez quoi ? Il n'y a rien d'intelligent chez vous, Joe. En 47 ans, vous n'avez rien fait.
Le fait est que tout ce qu'il a dit jusqu'ici est un mensonge. Je ne suis pas ici pour dénoncer ces mensonges. Tout le monde sait que c'est un menteur.
Voilà, on entendait d'abord Donald Trump, puis Joe Biden. Il y avait eu beaucoup d'invectives lors de ce débat. Joe Biden avait même perdu son calme à force d'être coupé par Trump. Ce soir, d'ailleurs, pour leur débat, on s'attend à beaucoup de tensions. Il n'y aura pas de public, les micros pourront être coupés à tout instant pour éviter les débordements d'il y a 4 ans. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que, pour vous, je vais vous poser la question principale de ce débat, on peut parler de trumpisation du débat en France ? Est-ce que le débat est aussi tendu dans les mots utilisés, dans les échanges entre les politiques ?
Et il le devient, donc c'est un processus en cours. Il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a effectivement la crise du politique, il y a aussi des réseaux sociaux qui ne sont pas du tout réglementés. On aurait eu le temps, vu ce qui se passait aux États-Unis, d'adopter un cadre réglementaire protecteur de la démocratie. On ne l'a pas fait, donc on est effectivement dans des échanges qui deviennent de plus en plus agressifs, et avec aussi, il faut le dire, parce que c'est documenté, des influences étrangères sur le scrutin. Aux États-Unis, c'est le cas massivement avec, on le sait, des bots, c'est-à-dire des robots, des automates en ligne russes qui diffusent massivement des informations, ou plutôt de la désinformation contre Joe Biden. On a aussi ce type d'influence en France, et la combinaison est évidemment très toxique pour la démocratie, puisque c'est fait pour être toxique pour la démocratie. On n'est pas protégé, on ne s'est pas protégé. Du coup, on arrive à cette situation où on a le sentiment d'être plus fragile que jamais démocratiquement. Donc ça pose deux questions. D'abord, si on arrive à sortir de cet épisode d'extrême droite, si l'extrême droite est élue, quand elle est élue, elle a du mal à rendre le pouvoir. Donc si on arrive à avoir, on va dire en 2027, une alternance démocratique, il faudra absolument revoir les cadres du débat démocratique, ce qu'évidemment l'extrême droite ne fera pas puisque ça lui est profitable. Il faudra poser cette question sur la table, parce que là, on est en passe de perdre beaucoup de nos libertés.
Arnaud Benedetti, sur une trumpisation du débat politique en France.
Oui, alors si, quand même, quand je compare les débats politiques en France, et notamment les derniers débats télévisés auxquels on a pu assister, auxquels on assistera d'ailleurs encore ce soir, si la conflictualité est évidente, et d'ailleurs elle est naturelle aux politiques, il n'y a pas de politique démocratique s'il n'y a pas de conflictualité. Je note quand même qu'il y a des expressions, au moins dans ces débats télévisés, qui me paraissent à ce stade beaucoup plus policées que ce que l'on vient d'entendre. Donc, mais il y a néanmoins une trumpisation du débat politique qui est liée à tous les ingrédients qui viennent d'être notamment cités. On voit bien qu'on est dans un écosystème aujourd'hui médiatique qui s'est considérablement transformé et qui, d'une certaine façon, tend à hystériser le débat. Si vous voulez, aujourd'hui, aller communiquer sur Twitter, enfin ex-Twitter, nouvellement X, c'est finalement essayer d'abord d'aller accrocher l'adversaire, d'aller le provoquer, d'aller produire ce que l'on appelle des punchlines, c'est-à-dire finalement toujours en donner plus à la dictature de l'instantanéité et évidemment de l'émotion. Mais si vous voulez, les passions politiques ont toujours existé. Hein. Machiavel en parle très clairement. Il dit le prince doit faire avec les humeurs des peuples. Mais ce qu'il y a de vraisemblablement nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a un espace public qui est totalement désintermédié, enfin en tout cas grandement désintermédié du fait des réseaux sociaux sur lesquels, je veux dire, on peut mobiliser, sur lesquels on peut influer. En effet, il y a des ingérences étrangères et surtout ce sont des réseaux, si vous voulez, qui ne donnent pas de place à la possibilité véritablement d'argumenter. L'espace public, c'est un espace où vous allez argumenter et contre-argumenter de manière rationnelle. Et il est évident qu'aujourd'hui, on ne sait pas, dans ce nouvel espace public, on n'y arrive pas. Et donc, évidemment, on a, si vous voulez, un écosystème qui, d'une certaine façon, nourrit cette hystérisation toujours permanente du débat politique.
Marc Crépon, vous voulez rebondir ?
Oui, je voulais rebondir parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur, disait que le paradoxe du politique, c'est qu'on a besoin à la fois de verticalité et on a besoin d'une horizontalité. Mmh. D'une horizontalité qui vient compenser cette verticalité qui la rend plus vivable. Donc la verticalité, c'est celle du chef de l'État, celle des grands décisionnaires de l'État. De ce point de vue-là, le président Macron a incarné une forme de verticalité très forte, affichée dès le début de son élection.
Il a pris trop de décisions tout seul ?
Alors, ce n'est pas qu'il a pris trop de décisions, c'est qu'il s'est posé effectivement au pouvoir très jupitérien. C'était l'image qu'il avait utilisée. Ce qui a considérablement changé, c'est l'horizontalité. Parce que cette horizontalité, qui pouvait être dans le fond une organisation d'une parole qui fonctionne comme un contre-pouvoir, alors elle pouvait être assurée par les syndicats, par des mouvements associatifs, etc. Cette horizontalité aujourd'hui, via les réseaux sociaux, elle est extrêmement anomique, elle est incontrôlable. Et donc, on a le paradoxe du politique aujourd'hui, c'est un peu déplacé entre une verticalité, Et alors, le Rassemblement national, s'il arrive au pouvoir comme verticalité, ça se pose là, effectivement. Et puis, justement, cette horizontalité, celle des réseaux sociaux, celle des mobilisations, celle des rumeurs, celle qui fait régner, effectivement, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la post-vérité, où tout peut tenir lieu de vérité. Et ça, évidemment, c'est très, très, très compliqué pour le pouvoir politique vertical de savoir comment faire avec cette horizontalité. C'est le mouvement des Gilets jaunes, par exemple.
Alors, on parlait du rôle des réseaux sociaux dans la campagne. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que dans les médias, dans leur traitement, eux contribuent à cette brutalisation du débat ? Parce que la différence, c'est que là, tout se fait en direct. Par exemple, les rebondissements chez les Républicains. On le rappelle, son patron, Éric Ciotti, a fait alliance avec l'extrême droite sans en parler avec les membres de son camp, ce qui a provoqué le chaos. On a suivi heure par heure ce feuilleton sur les chaînes d'infos en continu. Donc, c'est voilà, une campagne qu'on suit seconde par seconde. Philippe Moreau-Chevrolet, ça ajoute forcément un peu de tension aussi. C'est ça qui est différent par rapport à d'autres campagnes.
Oui, ça ajoute de la tension. Après, moi, je trouve que les médias, globalement, font leur travail. Ce qui pose vraiment problème sur des émissions où on va inviter des complotistes qui vont être ouvertement dans une réalité alternative. Ça va être aussi éventuellement la Constitution. On a retrouvé, pour le pire et le meilleur, j'ai envie de dire, une presse d'opinion en France qui devient vraiment très prédominante. Alors, la bataille culturelle a été gagnée par la droite de ce point de vue-là, voire par l'extrême droite, mais on a retrouvé ce terrain d'affrontement que sont les médias. Donc moi, je ne trouve pas ça négatif, je trouve que c'est bien. Après, encore une fois, ça manque de cadre, ça manque de, au fond de aussi décider qu'on a le droit d'imposer des valeurs démocratiques, donc que certains propos complotistes ne doivent pas être entendus, il faut des vraies sanctions. Typiquement, quand il y a des manquements, l'ARCOM devrait être beaucoup plus fort, on devrait avoir des structures de protection de la démocratie, encore une fois, beaucoup plus alertes que c'est le cas actuellement. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit choquant que Ciotti ait été suivi comme ça en direct. Je veux dire, ça fait partie des campagnes de tout temps. Ce qui manque, c'est des garde-fous par ailleurs face aux vraies nouveautés qui vont être la déferlante de complotistes, une déferlante aussi de presse d'opinion de manière totalement débridée, j'ai envie de dire.
Marc Répond, il nous reste une petite minute. Est-ce que vous voulez rebondir à ce qu'a dit Philippe Moreau-Chevrolet ?
Ben, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et j'ai remarqué que régulièrement, vos autres invités se sont alarmés de ce qui pouvait arriver à la démocratie, de la façon dont elle devait être protégée. Et je pense que c'est l'un des grands défis qui nous attend aujourd'hui, quel que soit le résultat de ces élections. Et si c'est celui que tout le monde nous promet, alors peut-être encore plus, et ça demandera beaucoup de vigilance.
Et est-ce que ça montre, en quelques secondes simplement, est-ce que ça montre toute cette violence et tension autour de la campagne, que la démocratie est en danger en France ? Ça montre quelques fragilités ?
Oui, elle est en danger. Elle est en danger parce que, d'abord, il y a dans un certain nombre de propositions du Rassemblement national qui, pour moi, relèvent de cette mise en danger. Mais aussi, elle est en danger parce que quand on voit peu de prises d'alerte, d'avertissement de cet ordre, on peut réellement s'interroger sur l'attachement de l'ensemble des citoyens à la démocratie encore aujourd'hui.
Et ce sera le mot de la fin. Merci. Marc Répond, directeur de recherche au CNRS, professeur de philosophie à l'ENS. Je cite votre dernier ouvrage, « 7 leçons sur la violence » qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation dans le débat du jour. À suivre sur RFI, le Afrique Soir, la première édition, ce sera présenté par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Marion, bonsoir à toutes et à tous.
Et au programme ?
Au programme ce soir, le scrutin présidentiel de samedi en Mauritanie. La campagne électorale s'achève ce soir à minuit, heure locale. Léa Lisa Vesterhoff, notre envoyée spéciale à Nouakchott, nous fera vivre les dernières heures de campagne des 7 candidats en lice. Nous irons ensuite au Kenya, 2 jours après les violences meurtrières qui ont conduit le président William Ruto à retirer son projet de budget contesté. L'appel à la mobilisation ce jeudi a été maintenu. De petits groupes de manifestants se sont donc de nouveau rassemblés à Nairobi, la capitale.
Et ce sera avec vous donc Zéphirin Quadio à partir de 18h30 en temps universel. On se retrouve dans quelques secondes pour le journal.